D'ici la fin du 21e siècle, plus de la moitié des 6500 langues aujourd'hui parlées sur notre planète risquent de disparaître. Et face à ce constat alarmant, des linguistes travaillent sur le terrain pour tenter de sauver une partie de l'héritage linguistique et contribuer à préserver une des richesses culturelles de l'humanité. C'est le dossier dans un instant de La Tête au Carré, avec donc mes invités qui essaient de sensibiliser la communauté internationale aux enjeux de la diversité linguistique. Toutes vos questions dès maintenant sur les langues du monde, franceinter.fr et le mot-clé LATAC. À la une de la science aujourd'hui, Axel Villard, le manifeste des 30, une initiative lancée hier par le docteur Irène Frachon à l'origine de l'affaire du Mediator.
Oui, bonjour Mathieu, la pneumologue s'associe aujourd'hui avec 30 grands noms de la science pour exhorter les médecins et les chercheurs à cesser tout lien d'intérêt avec le laboratoire Servier. Elle vous explique pourquoi dans un instant avec vos questions sur Twitter, hashtag LATAC.
Voilà pour le sommaire de cette tête au carré réalisée par Stéphanie Texier et préparée par Anne-Cécile Perrin.
La tête au carré, le magazine scientifique de France Inter. Mathieu Vidard.
La disparition des langues et le travail des linguistes sur le terrain, c'est donc le dossier dans quelques instants de la tête au carré. Dernier volet de cette émission, Colette Greenwald et Nicolas Tournadre reviennent dans la tête au carré. Bonjour, bonjour à tous les deux. Colette Greenwald, qu'est-ce qui cause en général le déclin, voire la disparition d'une langue ?
Je pense qu'en général, c'est l'attitude même des gens qui ont honte des langues qu'ils parlent à cause de l'attitude générale envers les langues non reconnues.
Ah, c'est la responsabilité même des locuteurs, donc, pour vous ?
Non, justement, on dit que c'est de l'auto-disparition. Non, mais je pense qu'on fait tout pour que les gens qui parlent des langues minoritaires se sentent très mal. Mmh. On leur dit qu'on ne peut pas être intelligent dans ces langues-là, on leur dit que ce n'est pas des langues.
Ah oui, d'accord, oui.
Et donc, les mamans ont peur d'enseigner ces langues à leurs enfants. Mmh. Donc il y a un gros travail de revalorisation, de reconnaissance de la valeur de ces langues. Et le fait que tout être humain peut être multilingue, pas de problème.
Nicolas Tournadre, qu'est-ce que l'on perd vraiment lorsqu'une langue disparaît ? Pour qu'on se rende compte un petit peu, hein, justement, de la perte.
Ben on perd d'abord, je dirais, un chant, puisque les langues, c'est d'abord une mélodie, un rythme, c'est des sons. On perd aussi un classement du monde, une certaine structuration du savoir avec le vocabulaire qui est structuré différemment. Mmh. Et on perd des habitudes liées à la cognition, des habitudes liées à la mémoire, à l'attention, à la perception qui apparaissent dans certaines langues grammaticalisées. Donc dans la grammaire même des langues, elle nous force à faire attention à certaines choses. Mmh. Ça, on le perd. Et puis en fait, bien sûr, on perd tout un savoir culturel, connaissance du monde, des mythes, de la médecine traditionnelle, de la pharmacopée, des proverbes, des récits, etc. Et je dirais qu'on le perd très vite, puisque, comme l'a dit Colette, il suffit que les gens décident de ne plus parler. Et en deux générations, ça peut être perdu. Et ce qui fait qu'il y a beaucoup de langues de régions du monde où les grands-parents ne peuvent pas parler avec leurs petits-enfants. Mmh. Et là, en Chine, par exemple, où j'étais, c'est le cas.
On va se retrouver dans un instant. Vous allez nous parler, hein, justement, de votre travail de terrain pour évoquer la diversité, la disparition des langues, avec toutes les questions qui arrivent sur le site de La Tête au Carré, franceinter.fr. À la une de la science, aujourd'hui, 30 grands noms de la science et de la médecine française exhortent donc les professionnels de santé à refuser tout lien d'intérêt avec le laboratoire Servier qui commercialise le Mediator. Nous recevons les porte-parole initiateurs de ce mouvement au téléphone la pneumologue Irène Frachon et dans ce studio le médecin généraliste et blogueur Dominique Dupagne. Bonjour.
Bonjour Mathieu.
À tous les deux. Bonjour Irène Frachon.
Bonjour.
Depuis Brest. Quel a été l'élément déclencheur, Irène Frachon, de cette initiative qui s'est montée très rapidement et dans le secret, hein. On en a eu vraiment connaissance hier.
Oui, mais c'est vrai aussi que ça a été très très rapide, donc l'embargo était assez simple à tenir. Écoutez, la goutte d'eau, c'est en fait l'aboutissement d'un bras de fer insensé entre Servier et les victimes qui dure depuis 5 ans. En gros, Servier a toujours dit qu'il allait indemniser les victimes. La réalité, c'est un combat, j'ai envie de dire, au corps à corps, au civil, au pénal, et maintenant, même à l'ONIAM, l'Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux, où un processus d'indemnisation a été voté à l'unanimité par une loi que Servier conteste aujourd'hui, ose contester et bloquer le versement d'indemnisation à certaines victimes pour des prétextes totalement fallacieux. Ça, c'est la goutte d'eau, parce que depuis 5 ans, j'accompagne un calvaire. des centaines et même des milliers de gens qui souffrent, qui se désespèrent, qui meurent, qui se révoltent et qui reçoivent contestation sur contestation des laboratoires Servier à leur demande d'indemnisation. Et régulièrement, je le dénonce, etc. Et puis, à un moment donné, je me suis dit, mais lorsque j'ai appris que l'ONIAM, l'argent public, le vôtre, le mien, celui de nos auditeurs, va servir à indemniser ces victimes à la place de Servier, là, je me dis, c'est plus possible, il faut le faire savoir. Et puis, on se dit toujours, c'est Irène Frachon qui arrive, la Jeanne d'Arc, voire même Don Quichotte. Et je sais qu'il y a des médecins que cette situation indigne, des grands médecins, des philosophes que j'ai eu la chance de rencontrer tout au long de ces dernières années. Et donc, ce qui est extraordinaire, c'est qu'il a suffi d'un coup de fil, d'un petit mail, et ils ont tous dit, on est là. Et on est là parce que on est auprès des victimes, et on veut que ce laboratoire, sans foi ni loi, soit traité pour ce qu'il est, c'est-à-dire un laboratoire délinquant et impitoyable. Et il n'est pas normal aujourd'hui que ce laboratoire soit reçu à bras ouverts, encore, par la plupart de sociétés savantes, de congrès, de symposiums, de formations, etc. Il faut stopper cette situation très choquante, des millions pour les médecins d'un côté, ou la communauté médicale et leurs sociétés savantes, et le couteau sous la gorge, quelques oboles misérables pour les victimes.
Et donc ce manifeste Dominique Dupagne qui a été mis en ligne hier et qui commence par une citation du serment d'Hippocrate, « J'interviendrai pour protéger les personnes si elles sont affaiblies, vulnérables, menacées dans leur intégrité et leur dignité. » À qui s'adresse vraiment cette citation ?
Eh bien c'est au corps médical parce que le deuxième aspect de cette révolte, comme l'a dit Irène, c'est d'une part bien sûr l'indemnisation des victimes qui ne se fait pas correctement, mais surtout cette espèce d'indifférence de la profession médicale, de certaines sociétés savantes, aux chefs de mise en examen qui concernent le laboratoire Servier, et c'est quand même tromperie aggravée avec mise en danger de l'homme, escroquerie, homicide et blessures involontaires, trafic d'influence et prise illégale d'intérêt. Et malgré cela, apparemment, beaucoup de sociétés savantes se font financer sur plein d'aspects par le laboratoire Servier. Alors, on sait tous qu'un congrès, c'est pas avec les cotisations des membres que ça se paye. Quand on loue le palais des congrès, il faut des sponsors, il faut des laboratoires qui participent, qui espèrent un retour sur investissement, mais c'est un autre sujet. Et donc, la question, c'est, mais est-ce qu'on peut encore se faire payer ces petits fours et ces salles par un laboratoire qui est confronté à une telle situation? Ça, c'est vraiment quelque chose de très choquant. Alors ensuite, il y a les partenariats scientifiques, et je crois qu'Irène voudra en dire un mot après, mais alors, il y a aussi le CNRS qui se réjouit d'avoir des partenariats scientifiques à long terme sur de la recherche scientifique avec Servier. C'est vrai aussi pour l'INSERM, c'est vrai aussi pour l'Institut Curie. La question, et je crois qu'Irène a des doutes là-dessus, est-ce que c'est vraiment de la science ou est-ce que c'est de l'influence ?
Ouais, Irène Frachon, justement, sur ces liens, puisque c'est vraiment ce qui est dénoncé au travers de ce site internet, puisqu'on peut le découvrir, c'est manifestedes30.com, avec les signatures d'Axel Kahn, Roland Gori, Didier Sicard, par exemple.
Oui, alors, effectivement, il est en ligne, il est accessible, et surtout, ce qui est très très important, c'est que c'est pas seulement un manifeste, c'est une pétition. C'est-à-dire que tout le monde peut signer s'il adhère à ces principes qui sont rappelés par ces 30 sages, et cette pétition, elle peut être portée par une vraie mobilisation citoyenne, et il faut qu'elle devienne, aujourd'hui 300 signatures, demain 3000, 30 000, 3 millions, il faut vraiment ça, cette mobilisation citoyenne d'un côté et le sursaut éthique des médecins de l'autre. Alors, en ce qui concerne ces partenariats qu'évoque Dominique Dupagne, moi, je connais bien ces partenariats, y compris les partenariats de soi-disant recherche. Servier, depuis que je suis un petit docteur, un jeune docteur, donc depuis 30 ans, parce que le temps passe, je le vois inondé de son argent des 10 laboratoires de recherche pour des résultats absolument indigents, des molécules dangereuses, toxiques, et qui ont, pour leur majorité, été retirées. Parce qu'il n'y a pas que le Mediator. D'autres molécules extrêmement dangereuses des laboratoires Servier et développées à grands frais de soi-disant recherche et de soi-disant partenariats de recherche ont été retirées, non sans avoir fait énormément de dégâts. Je pense à un médicament, par exemple, qui concerne le domaine de la pneumologie, qui s'appelle le Vectarion, et qui donnait des neuropathies, c'est-à-dire des atteintes neurologiques très graves des membres inférieurs, qui faisait maigrir aussi, comme quoi c'est vraiment une manie chez Servier, et par contre qui ne rendait rigoureusement aucun service. Il a fallu attendre la faire du médiator pour que le Vectarion soit retiré du marché, enfin, et si je puis dire que l'agence ait ce qu'il fallait pour de courage pour retirer ce médicament.
Ouais, Dominique Dupagne, on a sur votre site internet la liste des partenariats, justement, que vous avez mis à la disposition des internautes.
On n'a pas voulu clouer les médecins au pilori, on a même flouté les noms, c'est pas le but, on n'est pas dans de la délation.
Mais vous montrez quand même les
structures, les sociétés savantes, je crois que, bon, on n'est pas là pour donner des ordres, hein, mais on interpelle. Est-ce que vraiment votre déontologie médicale est compatible avec ça? Et pour paraphraser des proches, je dirais oui, on peut faire des partenariats sur tout, mais est-ce qu'on peut les faire avec tout le monde? C'est ça la question.
Allez, dernière intervention, Axel.
Est-ce que vous avez quand même un exemple de partenariat qui vous semble inacceptable aujourd'hui?
On veut pas pointer du doigt quelqu'un en particulier, ça n'a pas de sens. C'est vraiment, il y a des copies d'écran sur le site si on veut voir plusieurs sociétés savantes. On n'est pas là pour jeter des noms en pâture, c'est pas du tout l'esprit. C'est un problème déontologique, d'éthique générale.
Irène Frachon, merci beaucoup.
Merci à vous.
Manifeste des 30.com.
Tout le monde signe.
voilà, sur le site qui est en lien sur La Tête au Carré. Merci beaucoup également, Dominique Dupagne. Allez, en bref, dans le reste de l'actualité scientifique, les oméga-3 seraient finalement inefficaces pour lutter contre la dégénérescence du cerveau. Selon une étude américaine, les compléments alimentaires à base d'huile de poisson riches en acides gras oméga-3 ne ralentiraient pas le déclin cognitif, contrairement aux idées reçues. Cette étude clinique a été réalisée pendant 5 ans auprès de 4000 personnes âgées. Une montée des eaux d'au moins 1 mètre d'ici 100 à 200 ans serait inévitable selon la NASA. Ce phénomène dû au réchauffement climatique pourrait toucher les grandes villes de bord de mer comme Tokyo, Miami, encore Singapour, provoquant des inondations dans les prochains siècles. La glace est en train de fondre à vitesse grand V. Le Groenland a perdu en moyenne 300 milliards de tonnes de glace par an durant la dernière décennie. Et puis une photo insolite pour terminer, une abeille en train d'uriner en vol. C'est le photographe amateur Marc Parot qui a capturé cet instant rare. L'image fait un véritable buzz sur la toile. Elle a pourtant été prise par accident quand Marc Parot tentait de photographier un essaim dans son jardin en Angleterre. Photo qui est à retrouver sur la page Facebook de La Tête au Carré et sur Twitter avec le hashtag l'attaque. La disparition des langues, c'est donc notre dossier cet après-midi avec deux linguistes de terrain pour nous en parler avec tous vos messages dès maintenant sur le site de l'émission. We'll be right back. Et c'est la Priest à l'instant sur France Inter, diversité, disparition des langues cet après-midi. C'est la suite d'un dossier que nous avions ouvert avant l'été avec nos invités qui reviennent aujourd'hui. Donc les linguistes de terrain, Colette Greenwald, Nicolas Tournadre. Colette Greenwald, vous êtes professeure émérite des universités à Lyon 2 au sein du laboratoire CNRS Dynamique du langage. Vous avez publié entre autres Linguistique de terrain sur langue en danger aux éditions FDL. Et puis Nicolas Tournadre, vous êtes professeur à Aix-Marseille, membre du LACITO. C'est le laboratoire CNRS des langues et civilisations à tradition orale. Et vous étiez venu la première fois autour de ce livre, Le prisme des langues, aux éditions de l'Asiatech, qui nous a donc inspiré toute une série hein, de têtes au carré sur le sujet. Les messages arrivent déjà nombreux, franceinter.fr et le mot-clé LACTAC. Vous aviez un souhait, c'était vraiment qu'on parle de votre travail de linguiste de terrain. Est-ce que d'abord vous êtes nombreux, Colette Greenwald, à le pratiquer ?
Non, malheureusement, nous ne sommes pas nombreux, mais dans le travail que je fais, nous essayons entre autres de créer de l'intérêt dans les communautés et de former des linguistes de terrain qui sont des communautés. Donc là, je ne saurais pas donner de chiffres, mais l'idée, c'est que ce soit des locuteurs qui apprennent à faire de la linguistique et qui fassent leur propre documentation. Ouais. Donc dans les universités, non, il n'y a pas énormément de quelques centaines, quelques milliers au maximum. Mais le travail actuel, certainement en Amérique latine, Et de diffuser la connaissance linguistique pour que ça se fasse au niveau local.
Oui, donc c'est difficile à chiffrer aussi, parce que vous formez ces gens-là directement sur le terrain, sans diplôme, forcément.
Non, il y a des diplômes, il y a des écoles de formation, et voilà, moi je travaille dans cette mouvance de passer la linguistique aux gens que ça intéresse de première main.
Oui, Nicolas.
Et des locuteurs, si possible.
Nicolas Tournadre.
Oui, je crois qu'on est, comme le disait Colette, on est, très peu nombreux, en fait, comparé au nombre de linguistes qui travaillent sur des langues européennes ou des très grandes langues comme le japonais, le chinois, si vous voulez, et ce sont des langues écrites. Or, ce qu'il y a de frappant, c'est que 80% des langues du monde, des 6000 ou 7000 langues, sont parlées par moins de 100 000 personnes, souvent par 10 000 personnes, souvent par 1000 personnes, souvent par moins. Colette pourra raconter de nombreuses anecdotes de langues qui ne sont plus parlées que par une personne et on en redécouvre encore.
C'est ça, oui.
Et donc ces langues sont non écrites, évidemment. Et donc on a totalement oublié de travailler sur ces langues-là. Et bien sûr, maintenant, des gens en Asie également, en Afrique, prennent la relève du travail des linguistes et essayent aussi de contribuer à la documentation de ces langues-là avant qu'elles ne disparaissent.
Quelle est la première mission du linguiste de terrain, au fond, Colette Greenwald ? Est-ce que c'est maintenir les langues en danger ou pas seulement ?
Non, nous sommes une profession universitaire, il faut une formation très longue. Nous sommes les spécialistes de la description des langues. Je dis souvent que nous sommes les plombiers. Nous étudions la structure qui ne se voit pas, qui ne s'entend pas. Nous cherchons la structure interne des langues. Et pour cela, il faut de très longues études, et surtout quand on fait face à des langues qui n'ont jamais été décrites.
Ouais.
Donc moi, je me sens linguiste. C'est ça ce que je peux apporter de plus important, parce que c'est une profession difficile. Et j'essaye, oui, de travailler dans un contexte dans lequel ce que je sais faire est utile pour des communautés qui le demandent.
Alors, où est-ce que vous avez travaillé en particulier ? Vous avez passé très nombreuses années aux États-Unis.
Oui, j'ai fait toute une carrière aux États-Unis où justement on avait un département qui formait des linguistes de terrain, principalement. Mes terrains sont en Amérique centrale. Moi, personnellement, j'ai travaillé au Guatemala sur les langues mayas. Et puis là, je travaille depuis 30 ans au Nicaragua, mais j'ai formé des dizaines de linguistes qui travaillent en Amérique latine, en Amazonie, en Colombie. Je suis une formatrice, transmets ce que je sais faire à des jeunes qui partent sur le terrain et qui travaillent dans des communautés.
Oui. Au Nicaragua, vous aviez une mission particulière sur une langue particulière du pays ?
Oui, j'ai été commanditée à l'époque de la révolution sandiniste par le gouvernement sandiniste qui pensait donner l'autonomie, qui considérait donner l'autonomie à la moitié du pays, où étaient des indigènes. Et ils ne savaient pas quoi faire d'un groupe qui s'appelait Rama. et qui, dont il ne savait pas grand-chose ou rien. Et apparemment, des représentants de ce groupe sont venus demander qu'on vienne sauver leur langue parce qu'ils avaient perdu leur langue. Donc j'ai été lancée
en 85
à aller sauver la langue Rama.
Et est-ce que vous y êtes parvenue?
Je crois, oui, je crois.
L'état de santé, cette langue est bon aujourd'hui?
Non, il n'est pas bon, mais cette langue est connue. Mmh. Elle est connue de tous les membres de la communauté. Tous les Ramas savent que c'est une langue. Ils savent en dire quelques mots. Ils savent qu'elle peut s'écrire. Ils en sont fiers. Mmh. Ils voudraient bien qu'elle ne disparaisse pas. Donc, sur le plan revalorisation, sur le plan identité,
Donc là, la mission, c'était de revitaliser cette langue. Il y a combien de locuteurs aujourd'hui autour du Rama?
Il s'agissait à l'époque d'une population de 600 personnes.
Oui.
Quand on m'a envoyé sur le terrain, il disait qu'il n'y avait plus que trois vieux locuteurs qui ne m'ont jamais parlé à moi. Moi, j'ai trouvé une femme, mais je pense que j'ai recensé à peu près 50 locuteurs dans les années 80.
Oui.
Mon dernier recensement de cet hiver... je pense qu'il reste à peu près une douzaine de locuteurs natifs. Et puis, quelques dizaines de gens qui parlent, qui disent des choses, qui comprennent. Et c'est là où je travaille sur cet inventaire, typologie de type de locuteurs, pour qu'on n'oublie pas de compter tous ces gens qui ont réappris la langue, qui en sont fiers, qui s'identifient à travers cette langue.
Ouais, donc il faut toujours souffler sur la braise pour maintenir la vie de cette langue. Quel travail en tous les cas. Nicolas Tournard, vous avez travaillé principalement, vous nous le racontiez, autour des langues tibétiques, qui concernent plusieurs pays justement.
Oui, 6 pays essentiellement, c'est-à-dire la Chine, avec l'ensemble du Tibet, du plateau tibétain, le Bhoutan, le Népal, l'Inde, le Pakistan et la Birmanie. Et j'ai eu la chance de faire des terrains dans l'ensemble de ces pays, sauf en Birmanie où je suis allé, mais comme les 4 villages où on trouve des tibétophones sont en zone Kachin, qui est une zone en guerre, en réalité contre le gouvernement central, c'est très difficile. Et j'ai découvert, lorsque je suis parti la première fois en 85, je pensais qu'il y avait une seule langue, et j'ai découvert qu'il y en avait en réalité une cinquantaine. Et voilà, là je reviens actuellement de terrain sur le haut plateau tibétain. J'étais dans le nord, dans la province du Dzongun, Qinghai, et je n'y étais pas retourné depuis 8 ans. Et là, j'ai trouvé des différences absolument incroyables. Et Colette Greenwald et pas mal d'autres linguistes, on utilise souvent la métaphore et le parallèle entre la disparition des espèces biologiques et la disparition des langues. Et j'ai trouvé que là, il y avait non seulement un parallèle, mais une convergence et une accélération. En Chine, alors ce que je vais dire pour la Chine, on l'abordera sans doute plus en détail tout à l'heure, mais c'est vrai aussi, je pense, pour le Brésil, pour la Nouvelle-Guinée-Papouasie, pour l'Inde, parce que il me semble qu'il y a 5 facteurs essentiels qui vont contribuer à la disparition des langues. Alors je ne sais pas ce que tu en penses, Colette. Pour moi, il y a le transport, le développement des routes, le développement des médias. Le développement du système scolaire éventuellement qui peut être donné dans une langue dominante. Mmh. Ensuite, avec le développement des routes, il y a le tourisme éventuellement de masse, l'exploitation des ressources, par exemple minières, les barrages hydroélectriques, et puis le réchauffement climatique. Et sur ces facteurs, vous verrez qu'il y a l'exploitation des ressources, le réchauffement climatique, et également le développement des routes et du transport, qui contribuent massivement à la destruction de l'environnement et qui contribue à la destruction des langues.
Donc ce parallèle avec la biodiversité, il est très judicieux, Colette Greenwald.
Mais il est très réel. Il est très très réel. Je travaille, moi, avec cette communauté Rama, dont la communauté des locuteurs est à un seul endroit maintenant, sur la côte des Caraïbes. Mmh. Et c'est exactement le point de départ du plan du canal interocéanique. S'ils font le canal interocéanique, cette région est sous 30 mètres d'eau. Oui. Et donc, où vont aller ces derniers glaucus? Où vont aller ces gens de cette communauté?
Oui. L'école peut permettre aussi d'aider des langues. C'est le cas en Australie, par exemple, où à Sydney, des professeurs ont décidé justement de sauver les langues aborigènes. Voici l'extrait d'un documentaire.
Un salut qui se fait rare en Australie. Les élèves de cette école de Sydney apprennent la langue des Wiradjuri, une communauté aborigène. Parmi les bases enseignées, les noms des animaux et des membres de la famille.
Comme « Où est ta mère ?»« Où est ton frère ?» ou comme par exemple « Dagayina » qui veut dire « Où est ta sœur ?»
À l'époque de l'arrivée des Européens, le pays comptait entre 250 à 270 langues aborigènes. Aujourd'hui, moins de 70 sont parlées couramment.
Voilà, Colette Greenwald, une initiative parmi d'autres pour essayer de maintenir ces langues aborigènes donc en Australie. C'est intéressant, en tout cas, par le biais de l'éducation.
Oui, oui, nous sommes tous en train d'essayer de faire ça. Deux commentaires. L'Australie et l'Amérique du Nord sont des régions du monde où on estime que c'était 90% des langues qui vont disparaître avant la fin de ce siècle. 50% pour tout le monde entier. Mm-hmm. Mais ces deux régions du monde sont particulièrement touchées. 90% pour les langues aborigènes. Un commentaire. Deuxième, je souriais en écoutant l'enregistrement. Ça ressemble exactement à ce qu'on fait dans les ateliers pour les ramas. Mmh. Et les jeunes m'avaient demandé de faire un petit livre. Et nous avons fait un petit livre de 10 conversations, 10 dialogues.
Oui.
Et pour que les gens voulaient apprendre assez de ramas pour aller dans la rue de la ville et se parler d'un trottoir à l'autre. Et les phrases disent « Bonjour, comment vas-tu »« D'où viens-tu » Ils viennent tous de Lille. « Comment t'appelles-tu » Mais ils savent tous dire ça. Tous les élèves de l'école de Lille savent dire ça. Ils voulaient l'utiliser dans un milieu urbain, pour montrer qu'ils étaient Rama et qu'ils savaient le Rama. Et si on leur demande s'ils parlent Rama, ils répondent qu'ils parlent Rama.
Voilà, et c'est une façon de diffuser encore la langue, de la maintenir en vie, et c'est extrêmement important. On va se retrouver dans un instant, ensemble, avec les messages. Hein. Je n'oublie pas bien sûr les auditeurs qui nous rejoignent nombreux. Il y a beaucoup de questions pour vous sur différents aspects justement des langues du monde. Franceinter.fr et le hashtag LATAC. Colette Greenwald et Nicolas Tournadre, vous êtes nos invités cet après-midi dans cette Tête au Carré.
Je n'attends vraiment rien, je viens pour y lire des bouquins. Arthur Miller, puis faut que j'aille traîner sans raison, sans raison. Oh, traîner sans raison. Oh, traîner sans raison. Oh, traîner sans raison. De plats en frime, Paris déprime, Saint-Germain s'illumine. Se fondra la foule dans la ville aux rencontres faciles. Je ne fais guère attention, les dessins j'ai dans ces cartons sont mon unique passion. L'art est ma raison, l'art est ma raison. Oh, l'art est ma raison. Oh, l'art est ma raison. Oh, l'art est ma raison. Si jamais d'aventure je recherche l'aventure, Café Paris. Arthur Miller. j'aille. Venez sans raison, venez sans raison. Oh, venez sans raison. Oh, venez sans raison. Oh, venez sans raison.
Paris le Flore, Étienne Dao sur France Inter et notre programmation musicale signée Thierry Dupin.
La tête au carré, jusqu'à 15h, sur France Inter.
Deux linguistes de terrain, Colette Greenwald et Nicolas Tournadre, nos invités donc cet après-midi. Linguiste de terrain et linguiste de bureau, on peut dire des choses comme ça. Un autre pan de votre profession, au fond, Colette Greenwald.
Ah mais bien sûr, ouais. Justement, la question est que les linguistes, la linguistique, c'est l'étude des langues. Nous avons les mains dans le cambouis.
C'est ça.
Et nous regardons une très grande
les plombiers,
diversité.
Hein, de
voilà. Nous regardons une très grande diversité que nous voulons faire intégrer dans la discussion de linguistique. Qu'est-ce que c'est qu'une langue? Donc nous faisons tout le trajet entre aller chercher les données sur le terrain, écrire des descriptions, en retirer ce qui est intéressant pour en comparant aux autres langues, faire de la typologie, de la théorie, et puis d'un autre côté, utiliser cette théorie, cette typologie qui nous aide à voir un peu plus vite peut-être ce qu'on a sur le terrain, ce qui est nouveau et ce qu'on a déjà vu ailleurs.
Donc vous rapportez le matériel aussi à ces linguistes, Nicolas Tournadre ?
Oui, on rapporte et ce matériel, on va chercher les données. Il faut quand même aller les chercher sur le terrain. Là d'ailleurs, pour rebondir sur la question précédente de l'école et des nouvelles technologies, c'est vraiment à double tranchant, puisque d'un côté, l'école peut diffuser une langue dominante et les nouvelles
écraser ces langues minoritaires.
Et en même temps, comme dans l'extrait que vous proposiez à propos de l'Australie, elle peut aider dans certains cas. Et les nouvelles technologies, c'est pareil. Là, par exemple, j'étais sur le haut plateau tibétain dans la région de l'Amdo et les gens utilisent de plus en plus des téléphones portables et les consultants, les informateurs, comme on dit parfois, que je recrutais, je les appelais et ils demandaient aussi des confirmations sur des énoncés que dont on discutait. On discutait de problèmes de grammaire et de sources de l'information dans cette langue. Et ils appelaient sur Weixin, l'application WeChat ou le téléphone, la famille, les grands-parents, etc.
Donc c'est une façon de diffuser aussi.
C'est une façon de diffuser. Et les technologies modernes permettent aussi de défendre ces langues-là. Donc c'est à double tranchant. Ouais. Parce que si on a un État qui impose une langue dominante et des grands États linguicides comme la Chine, comme le Brésil, vont imposer évidemment la langue nationale, etc. C'est vrai aussi de la Russie, etc. Mais en même temps, ces nouvelles technologies peuvent permettre vraiment à des communautés, là, les portables notamment, et même Internet, de maintenir ces langues-là.
Mais ça, c'est possible avec des langues qui sont uniquement orales aussi.
Oui,
on peut utiliser ces outils-là.
Bien sûr, parce qu'on peut.
Mais comment on fait alors? Puisqu'elles sont pas écrites.
Bon, on enregistre. Alors, il y a plusieurs. Maintenant, on peut mettre énormément de données vidéo, de données enregistrées, de données sonores, et aussi les linguistes que nous sommes, nous faisons des transcriptions phonologiques ou nous faisons des transcriptions phonétiques de ces langues-là.
D'accord. Parce que sur les 6500 langues, on va dire entre 6000 et 7000 langues, la plupart sont des langues orales aussi, Colette Greenwald. Hein.
Oui, ce sont des langues à tradition orale, oui. Mais le travail des linguistes, nous avons besoin de l'écriture pour faire nos analyses. Le travail des linguistes commence par transcrire les langues, donc de développer un alphabet pour pouvoir écrire ces langues. C'est tout un travail, on forme les linguistes à faire ça. Mais toute langue peut être écrite, elle peut être transcrite. Pas juste phonétiquement, mais les traits principaux de la prononciation, on appelle ça le niveau phonologique.
Oui.
Et certainement en Amérique latine, maintenant la tradition c'est d'utiliser l'alphabet latin, et on parle d'alphabet pratique. Ce sont des alphabets qui à l'origine pouvaient être tapés sur une machine à écrire. C'est-à-dire on n'utilise pas des petits symboles bizarres, on prend les lettres de l'alphabet, on les combine pour les sons spéciaux, on fait des combinaisons spéciales, mais ce sont des alphabets très faciles à utiliser. Et les locuteurs, s'ils ne sont pas trop âgés, les apprennent très très vite.
Alors, beaucoup de questions d'abord sur la différence entre une langue et un dialecte. Quel avenir pour le breton? On ne va pas parler de langue régionale forcément beaucoup, mais en tout cas sur la distinction langue-dialecte.
Mais on dit toujours qu'une langue... tout est dialecte, hein, tout est parlé. Une langue, c'est un dialecte avec une armée
et une flotte.
Et une flotte.
Ça, c'est Weinreich.
Voilà. Une langue, c'est un dialecte qui a été choisi par un pouvoir politique, pouvoir culturel, mm-hmm. qui choisit son propre dialecte et qui décide que c'est la langue officielle, qui va donc produire des écrits dans ce dialecte-là. Et qui va donc après l'enseigner à travers les écoles. Mais la langue, les langues, tout parler est en variation.
Nicolas Tournadre.
Il y a en fait un certain nombre de linguistes qui pensent que le terme de langue, c'est pas un terme scientifique en linguistique. Et donc, ils parlent, moi, dans le prisme des langues, j'ai d'ailleurs utilisé, je parle de dialecte et de groupe de dialectes. Après ça, lorsqu'on ramène une couche soit politique, soit de standardisation, de normes, ou d'écriture, on peut parler de langue. Mais sinon, on ne parle que de dialecte ou de groupe de dialecte. Il y a groupe de dialecte, un même groupe, c'est qu'il y a intercompréhension entre les divers dialectes. Et là, on a éludé, mm-hmm. on a, comment dire, éliminé le problème de langue-dialecte, et c'est beaucoup plus clair.
Viron demande combien de langues disparaissent. Est-ce qu'on arrive à le chiffrer véritablement?
Ben là, ce que je disais en début d'émission, ensuite je pense que Colette réagira aussi par rapport à ça, c'est que pour moi, l'accélération est énorme. C'est-à-dire que j'avais déjà une impression d'une disparition, disons, assez rapide. Mais là, dans ma génération, ça a été extrêmement rapide. Et là, avec la construction des routes, avec le tourisme de masse qui fait déplacer des millions de personnes devant des communautés qui font 1000 personnes, 10 000 personnes, avec les barrages qui déplacent des villages entiers, et là c'est vrai pour l'Inde, la Chine, c'est vrai pour plein de pays, l'Amazonie,
oui.
Avec les problèmes de réchauffement climatique où des îles entières sont évacuées, hein, ça c'est dans le Pacifique, eh bien ça, l'accélération de la disparition est bien plus grande. Ce qui fait que je pense qu'on va arriver à des prédictions qui sont bien, comment dire, bien pires. C'est pas la moitié des 6500 langues, c'est encore plus qui va disparaître dans moins de 100 ans.
Oui, Colette Greenwald.
C'est très accéléré. Donc la situation aujourd'hui, c'est qu'il y a de plus en plus de ces langues qui sont vraiment parlées par très peu de gens, en général de la génération grands-parents,
oui.
et qui ne sont plus parlées naturellement dans des familles, mais avec des communautés qui veulent revitaliser ces langues. Et donc, il y a toute la problématique de comment aider, comment, à quoi servent les linguistes dans oui. ce cas-là. On a développé dans mon laboratoire une approche à ce genre de situation. D'abord, en reconnaissant le type de danger. Et ce sont des langues très en danger. Et on les appelle des langues post-vernaculaires. Vernaculaires, ce sont des langues qui sont passées naturellement d'une génération à l'autre. Post-vernaculaires, là, ce sont des langues qui ne sont pas transmises naturellement. Mais ces communautés, moi je travaille par exemple avec des collègues dans la région de Lyon, des Rhône-Alpes, sur le franco-provençal. Mmh. Donc il y a un intérêt pour le franco-provençal, pour la revitalisation du franco-provençal. La vérité étant que il n'y a vraiment plus beaucoup de locuteurs natifs.
Donc ce sont des trésors, au fond, ces locuteurs, dont il faut prendre soin quand on n'en a plus qu'un, comme vous le disiez tout à l'heure. Mais c'est quelque chose d'inimaginable, non?
Oui, oui, il y a beaucoup de documentation sur des situations où une personne... Oui. Ce que moi j'ai...
Il y a le mythe du dernier locuteur,
voilà.
Hein,
ouais,
c'est
vous
ça aussi.
Ça.
Oui, on en avait parlé, je me
voilà,
souviens avec
parce que
vous.
Quand le roi est mort, quand le dernier locuteur est mort, on a le prochain dernier locuteur qui arrive,
voilà.
Parce que c'est une situation sociale qui attire la presse, qui attire voilà. l'argent, qui attire beaucoup de choses.
Ouais.
Donc les gens veulent qu'on croie que c'est le dernier locuteur.
Nicolas Tournadre.
Oui, pour parler des langues en France, hein, c'est la situation est aussi déplorable parce qu'il y a eu une attaque frontale contre celle-là. Moi, j'aime bien parler en termes de famille. On a la chance d'avoir en France des langues, bien sûr, romanes, mm-hmm. des langues germaniques, des langues celtiques, n'est-ce pas ? Et ce joyau extraordinaire qui est le basque, qui est un isola, qui est parlé nulle part ailleurs dans le monde et
ouais.
qui a une structure aussi différente du français que le japonais, par exemple. Et combien de fois on entend le basque en France ? On a l'impression que c'est inaudible. C'est invisible, inaudible, ce que vous voulez. Pourquoi ? Pourquoi il y a ça ? Alors que c'est une langue qui... Les Basques étaient présents lorsque les Romains sont arrivés. Donc s'il y a des vrais Européens, c'est eux. Ce sont eux. On ne sait pas d'où ils viennent. Et ils ont une langue absolument hallucinante du point de vue de leur grammaire, du point de vue de la phonologie. On n'entend pas parler. On n'utilise pas ces ressources-là. Donc évidemment, en France, on est... D'une certaine façon, on a une politique linguistique qui a, encore une fois, visé l'uniformisation. Donc, c'est vrai de donner des leçons aux Brésiliens ou aux Russes ou aux Chinois, c'est pas très facile non plus.
Allez, vous allez faire plaisir à Bernard qui nous a envoyé ce message. J'espère que les langues dites régionales ou minoritaires de France seront évoquées. Ben voilà au moins qui est fait pendant quelques instants. Magali, un témoignage. Un enfant peut très vite apprendre, mais aussi très vite oublier une langue. Il faut absolument parler la langue maternelle à la maison, dit-elle, quelle qu'elle soit, et dès le plus jeune âge.
Oui, les langues en bonne santé sont les langues que les mamans parlent à leurs enfants, que le grand-père parle à ses petits-enfants sans en avoir honte et pour lesquelles ils pensent qu'ils savent quelque chose qu'ils veulent transmettre. Donc ça, c'est la condition naturelle des langues, c'est que les gens se parlent, se racontent des histoires.
Nicolas Tournard.
Oui, et là, comme je l'évoquais tout à l'heure, j'ai vu plein de situations, là notamment en Chine, où les grands-parents n'ont plus de langue commune avec les petits-enfants.
Donc il n'y a plus de dialogue possible.
Il n'y a plus de dialogue possible, puisque les grands-parents parlent une langue tibétique, par exemple, et les petits-enfants ne parlent que le putonghua, le chinois mandarin standard, si vous voulez, ils ne peuvent plus communiquer. Et je pense que cette situation-là se retrouve en Inde, dans l'Himalaya, parce que certains vont parler le népalais, d'autres des langues tibéto-birmanes. Elle se retrouve au Brésil. Tu l'as certainement rencontré, cette situation, très fréquemment.
Collègue Grenval.
Ou même en France, avec les populations migrantes, les grands-mères qui ne peuvent pas parler à leurs petits-enfants.
Allez, on se retrouve dans un instant pour la suite de notre dossier. Toujours les messages pour vous, franceinter.fr, et puis les messages courts avec le mot-clé « l'attaque ». Souchon, vous le dit. Voici pour vous « La baie des fourmis ».
Regardez la mer, restez la journée entière ici, sur le mur de pierre, devant la baie des fourmis. Regardez la mer, ne pas avoir d'autre envie que regarder la mer. Restez, restez sur le mur de pierre, là où soleil s'est mis. Restez, restez tout seul, solitaire, devant la baie des fourmis. Regardez la mer, restez la journée entière ici, sur le mur de pierre, devant la baie. Avoir d'autre envie que regarder la mer. Laissez, laissez le temps s'en aller là. Laissez aller les voiles rouges sur la mer qui bouge. Laissez sur l'eau transparente glisser les soucis de la vie. Glisser les jolies sirènes aussi dans la baie des fourmis. On entend danser les gens, il y a une fête à Saint-Jean, et moi je reste là à regarder la mer, rester la journée entière ici, sur le mur de pierre, devant la baie des fourmis. Regardez la mer, ne pas avoir d'autre envie que regarder la mer. Regardez la mer. Regardez la mer. Regardez la mer, ne pas avoir d'autre.
La diversité des langues dans le dossier de la tête au carré cet après-midi. Colette Grenval, Nicolas Tournadre, nos invités et vos messages. Et un document de 1967 sur une langue sifflée. Ça se passe en Turquie, dans une vallée du nord justement du pays, où une population montagnarde utilisait ce procédé. Je ne sais pas si c'est le cas encore, vous nous le direz tout à l'heure. Procédé pour communiquer justement à grande distance.
La communication sifflée n'est connue actuellement qu'en trois points du globe. Aux Canaries, au Mexique et en France, à Haas. On a donc étudié d'une façon systématique cette nouvelle langue. Voici une phrase parlée, puis sifflée plusieurs fois. Cette langue sifflée est, du point de vue phonatoire, tout à fait identique à celle du village français d'Ars. Et au contraire de cette dernière, elle est encore d'un plein usage dans ces vallées montagneuses de la Turquie qui bordent la mer Noire.
Alors c'est quand même très étonnant, la langue sifflée, est-ce que c'est marginal justement au sein des langues orales, Nicolas Tournard ?
Oui, il y a relativement peu de langues sifflées, mais là justement, avec ce livre, Whistled Languages, les langues sifflées, il y a un aperçu de l'ensemble des langues sifflées sur la planète, mais c'est quand même très marginal. Hein,
Colette Grinval, c'est Julien Meyer qui a écrit ce livre, qui est un de vos élèves d'ailleurs, je crois.
Voilà, donc Julien Meyer est le spécialiste mondial, je pense, aujourd'hui, sur les langues sifflées. Il a fait le tour du monde, ouais. il a répertorié et il a travaillé sur une vingtaine de langues sifflées. Ouais. Il y en a beaucoup plus qu'on ne pense. Ouais. Ça n'est pas que des langues sifflé, ça peut être aussi des langues avec, tambourinées ou des langues. Ce sont des langues secondaires. Oui. Ce sont des langues qui imitent une partie de la langue parlée.
Est-ce que les clics, par exemple, ça fait partie aussi
ou
pas du tout?
Non. C'est une version, c'est de la dactylo de langues parlées. C'est-à-dire, elles ne sont pas indépendantes comme les langues signées. Les langues signées n'ont rien à voir avec les langues parlées. Le français, la langue des signes française, n'a aucune connexion avec le français. Ouais. Il y a une langue française signée, c'est-à-dire on épelle ce qu'on dit en français. Mais les langues des signes sont indépendantes des langues parlées, alors que les langues sifflées sont un reflet, sont un squelette.
On entendait bien la traduction, là, vraiment, d'une langue parlée et sifflée ensuite.
Voilà, elle colle complètement au vocabulaire, à la grammaire de la langue. Elle chante les mots et la grammaire.
Ouais. Est-ce que c'est une difficulté supplémentaire pour un linguiste de terrain, justement, d'avoir affaire à ces langues sifflées? Parce que j'imagine que là, on est quand même dans une autre sphère, non?
Complètement, et il faut être le côté technique.
Vous travaillez, vous deux, ou pas, sur les langues sifflées?
Non, mais j'ai eu comme doctorant, j'ai travaillé avec Julien Meyer quand il lançait son travail de thèse. Mm-hmm. Mon travail à moi a été de parler avec lui de comment faire le terrain, de comment faire les enregistrements, de comment approcher les communautés.
Nicolas Tournade.
Oui, dans l'Himalaya, il y a un certain nombre de communautés qui sont capables de parler très très loin d'une vallée à l'autre. Alors ça, c'est pas des langues sifflées, mais c'est de la communication très loin grâce à l'écho, etc. Ça, je sais pas s'il en parle dans ce livre-là. Mais ce qu'il faut dire vraiment, c'est que les langues signées, pour moi, sont pas tout à fait des langues au sens... C'est vraiment des langues secondaires, c'est-à-dire que...
Colin Grival n'est pas du tout d'accord avec vous.
Ben, j'ai pas l'impression que la communication puissent être aussi élaborées que dans les langues...
Oh, my dear.
Non?
Oui, bien sûr, elles sont dans un autre mode.
Oui.
Mais elles sont très élaborées. Très élaborées, et elles ont des grammaires qui...
Non, j'ai pas dit qu'il y avait pas de grammaire. Par exemple, ce que je voulais signifier, c'est que les langues signées, par exemple, c'est des langues, c'est une modalité totalement différente aussi, mais c'est vraiment des langues à part entière. Je suis un peu sceptique sur le développement, mais peut-être il y a effectivement des cas, il faut voir. Oui.
Juste un mot sur la complexité des langues aussi, et sur l'égalité ou l'inégalité des langues dont vous parlez dans ce livre, Le prisme des langues, Nicolas Tournard. Vous dites qu'il y a vraiment des langues qu'on ne peut pas traduire, en tout cas il y a des phrases qu'on ne peut pas traduire dans d'autres langues, parce que évidemment, on n'a pas les mots, on n'a pas la grammaire correspondante.
Oui, c'est-à-dire que en fait, la grammaticalisation va être très spécifique aux langues et on a longtemps pensé que les grammaires étaient assez proches. Il y a eu tout un courant de la linguistique avec le linguistique générativiste où on pensait que grosso modo il y a une grammaire. On s'aperçoit maintenant, il y a tout un tas de travaux qui montrent que, par exemple, certaines langues grammaticalisent très fortement l'orientation et on s'implique qu'il y ait en quelque sorte, on sache où on est par rapport à la rivière, si on a une sorte de boussole dans la tête, ou bien la source d'information. Là, par exemple, je travaillais sur le haut plateau tibétain avec des langues qui systématiquement indiquent si l'on a vu, si l'on a entendu, si l'on infère, etc. Et Et aussi qui disent si finalement l'information est probable, possible, etc. Mmh. Et la grande difficulté, c'est d'arriver à ce que les locuteurs puissent véritablement expliciter ça et d'arriver à comprendre cette grammaire-là qui est totalement chez nous absente.
Oui. Allez, une question de Stéphanie. Alors, je sais que vous n'aimez pas forcément qu'on vous la pose, mais quand même, les auditeurs sont curieux et c'est normal. Combien de langues parle chacun de vos invités? Alors, je disais que vous étiez hyperglotte tout à l'heure. Nicolas Tournan, allez, donnez-nous au moins une indication.
Non, je ne donne pas d'indication.
Vous n'aimez pas répondre à cela.
Je dis simplement que je parle des langues de 8 familles différentes parce que pour moi, c'est beaucoup plus important que compter parler une langue romane ou en parler 2 ou 3, c'est relativement facile. Oui. Et c'est beaucoup plus intéressant de dire quelle famille de langues on parle. Ouais. Ça me semble plus important.
Colette Grinval, de combien de familles de langues parlez-vous, s'il vous plaît?
Je répète, les linguistes ne sont pas des polyglottes. Ce sont deux choses complètement différentes. Et moi, je parle 3 langues. Ouais. Mais je pense en 3 langues, je parle 3 langues. Et j'ai travaillé, je pourrais parler 2 langues. Je pouvais, parce que j'ai plus de pratique, le Rakaltek, Maya... Et je peux parler plus le Rama que la plupart des Ramas. Mmh. Et j'ai donné des cours, des formations de méthodes de linguistique de terrain sur 20, 30 de langues. Et au bout d'un an, à passer 5 heures avec un locuteur, on finit par pouvoir se dire des choses.
Ouais. Alors c'est ça, parce que le linguiste de terrain est confronté à des langues qu'il ne connaît pas du tout aussi. Et vous devez parvenir à en extraire une grammaire aussi. Mais c'est un travail de fou, ça.
Non, c'est un travail de linguiste. Ça s'appelle de la phonétique, de la phonologie, ça s'appelle de la morphologie, de la morphosyntaxe, de la syntaxe, de l'analyse de discours. C'est notre travail.
Avec les locuteurs, qui sont vraiment vos interlocuteurs privilégiés pour vous aider?
Ils sont nos sources d'informations et ils deviennent nos partenaires. Le mieux, c'est quand ces gens-là ont une sensibilité par rapport à la langue qui fait qu'ils se coulent dans leur rôle d'assistant de recherche et ça devient un travail d'équipe.
Donc il y a toujours un binôme, Nicolas Tournan, dans votre travail de terrain?
Oui, bien sûr, il y a toujours un binôme et c'est la grande difficulté quand on arrive dans un village, que ce soit dans des forêts tropicales ou que ce soit en haute montagne, c'est de trouver les très bons informateurs, c'est-à-dire des gens qui parlent bien la langue, qui aiment raconter, qui aiment donner des récits et qui comprennent en quelque sorte notre objectif. Et ça, c'est la grande difficulté. Et quand on l'a trouvé, eh ben, il faut encore que la personne soit disponible, il faut encore que le chien arrête d'aboyer, que le coq arrête d'aboyer, qu'il n'y ait pas d'attaque...
Ah, le coq aboie des fois aussi.
Que le coq arrête de chanter, qu'il n'y ait pas d'attaque d'animaux dans le coin, etc. Ouais. Et donc, on est constamment, en même temps, dérangé, parce que ce n'est pas des horaires de bureau. Et une fois qu'on a trouvé les personnes adéquates, ça, c'est déjà le plus difficile. Il faut encore arriver à avoir un travail suivi et si possible sur des mois, si possible sur des années, parce que quand on décrit des grammaires, c'était extraordinairement difficile.
Colette Grinval.
Oui, on travaille en général avec des équipes. Enfin, ça n'est pas. On a un informateur référent, une personne qui comprend ce qu'on cherche, qui n'est pas forcément très bonne à raconter des histoires, mais elle nous emmènera voir le vieux du village qui raconte les histoires, le monolingue. Mmh. Et ce qu'on cherche, c'est des gens qui sont des linguistes dans la tête, qui vont comprendre ce qu'on cherche.
Dernière question, Violetta, professeur de langue étrangère, notamment français et espagnol. Je me trouve souvent face aux personnes qui pensent que les néologismes sont le début de la décadence d'une langue maternelle. Quel est votre avis ?
Pauvre langue anglaise décadente qui, à une certaine époque, s'est retrouvée avec combien de pourcents ? 60%, 50% de vocabulaire français. Mm-hmm. Donc les Normands ont laissé tout leur vocabulaire français aux Anglais et à l'anglais. Mm.
On a toujours fait des néologismes. Lorsque les Grecs appelaient un caméléon, donc un lion de terre, un animal qu'ils n'avaient pas vu, on fait constamment des néologismes pour décrire des réalités que l'on ne connaît pas.
Donc c'est normal. Vitalité.
C'est totalement normal de faire des néologismes constamment.
Merci beaucoup à tous les deux. Nicolas Tournan dans Le Prisme des langues aux éditions Asiatech et linguiste de terrain sur langue en danger, Colette Grinval avec Michel Baird aux éditions FDL.